je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour à la Leviron Funk zu her. Wie geht's heute Morgen in der Frühjahrzeit bis in Porta? Toujours un peu d'Alsacien pour démarrer ma chronique, mort mir Platzl. Alors, qui as-tu invité? À qui as-tu fait une place devant cette forêt de micros ce matin? À une belle âme remplie de lumière. À une personne d'exception, un poète, un Merlin, l'enchanteur. Il est d'une élégance très british, ses pompes, church, toujours bien ciré, ne pape, bel homme. Vous le connaissez tous quand vous rentrez dans ce bel écrin de Mary Poppins à l'ombre de la cathédrale, vous rentrez au fond d'un jardin. C'est ici où tout commence, votre voyage de douceur, de couleur, de senteur. Le Kapellmeister, c'est Frédéric ou Fred. Fred est le père spirituel de ce joyau cousu d'or et de diamants, les Madeleines du voyage. Un vrai conte de fées. Mais quel bonheur, enfin, de venir jusqu'à chez nous, Fred, dans nos studios. Merci, Fred, de partager ce moment avec toi.
Merci de cette invitation, cher ami, cher André. Merci à vous toutes et à vous tous de m'accueillir.
Bah écoute, Fred, en fait, tu es le créateur, le metteur en scène de cette finesse gustative, les Madeleines du voyage.
Oui, je mets en scène le travail de Laurent, qui, mon ami, va s'occuper de la créativité des Madeleines du voyage.
Laurent, c'est celui qui est dans le laboratoire.
Voilà, Laurent, mon ami, est mon binôme. Il est à la tête de la réalisation des sujets culinaires que le public découvre dans notre maison. Et je trouve que c'est tellement bien de pouvoir mettre en scène chaque jour les Madeleines du voyage de Laurent, à travers des noms, des poésies, des situations. Et on peut dire aussi, surtout, que ça puisse pénétrer l'univers particulier que j'ai créé très tôt, à l'âge de 17 ans, qui est devenu le fond du jardin.
Là, tu me disais, en entrant ici, sous la synagogue, il y a des odeurs ici, ça sent quelque chose.
Alors, c'est pas des odeurs.
Tu es très sens, des senteurs, tu veux dire.
Quand j'ai pénétré ici, cet établissement qui m'est très cher...
Ouais, parce que tu fais un peu partie de la maison. Hein.
Alors, moi, en tout cas, je suis né à Avignon, vers le Palais des Papes, je suis né place Jérusalem, et ça, c'est très important pour moi, j'ai des liens très forts. Mais quand je suis rentré ici, on sent quelque chose. Hein. Alors, quand on sent la présence. En fait, c'est très simple. Hein. Quand on rentre ici, à travers les murs, moi, quand je suis rentré, en quelques secondes, on sent la prière.
Ah, c'est beau ce que tu dis. C'est joli. Ouais, c'est très beau, c'est touchant. Alors, avant de parler de tout ça, parle-moi un petit peu, avant de parler du Madeleine du voyage, Fred, parle-moi un petit peu où tu as grandi, où tu étais un petit homme. D'où viens-tu, Fred?
Alors moi, je viens des quartiers d'Avignon, du centre-ville d'Avignon, les pavés, la rue des Roues, la lumière qui se lève à travers ces rues un peu magiques qui vont jusqu'au Palais des Papes. Et j'étais dans les écoles probablement le plus mauvais élève pendant très très longtemps. Je refusais d'apprendre plein de choses.
Mais tu étais un rêveur, c'est ça en fait. J'avais ton succès, vue, c'est ça. Savais rêver.
Moi, je regardais avec intérêt les jardins ouvriers en contrebas du centre-ville. Il y avait des beaux jardins particuliers et ouvriers. Je regardais les saisons naître, je regardais les gens qui marchaient. Et j'étais complètement là-dedans. Alors, j'étais un très mauvais élève, me suis rattrapé beaucoup plus tard après, mais j'ai arpenté ces rues et c'est vrai que jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais vraiment le rebelle absolu. Je portais en cachette un chapeau melon avec des cheveux longs au coin de la rue du Palais des Papes pour aller vers le collège et j'étais très vite, je dis bien très vite, happé par le Royaume-Uni, le mystère entre Sherlock Holmes et l'histoire d'Édimbourg par exemple.
Et en fait, rêver, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il est bon de rêver. Et ces rêves, si on t'a emmené jusqu'ici à Strasbourg, et grâce à ces jardins ouvriers, tu as créé un jour ton jardin à toi.
Oui, c'est-à-dire que sous le toit de la maison, en Avignon, à 18 ans, je réalise entièrement le décor que le public peut voir au fond du jardin chez nous. Je l'ai breveté à 18 ans. Avant d'être incorporé dans l'armée.
Tu l'as imaginé dans ta tête ?
Oui, je l'avais dessiné, colorisé, et je l'ai construit sous le toit de la maison de mes parents, avec réellement, au millimètre près, tout ce que je voulais y faire quelques années plus tard.
Mais tu étais éduquée par le beau, par un esthète. Tes parents étaient des esthètes. C'est eux qui t'ont transmis ça de...
Alors, mes parents étaient des artisans commerçants. Ils ont fermé leur boutique il y a moins d'un an. Ils ont 81 ans. Ils ont dirigé leur commerce de bicyclettes et de sport. Mais moi, j'étais complètement à l'opposé de tout ça. J'étais probablement dans la famille le seul qui dressait une nappe blanche le dimanche et qui allait couper des fleurs dans le jardin. Ça choquait beaucoup mon père, paix à son âme. Et ça choquait beaucoup papa parce que je mettais une scène. Je mettais une mise en scène pour qu'en famille...
Une belle table.
Une belle table.
Ouais, c'est important d'avoir une belle table.
Mais c'était bien aussi parce que mon père, il arrivait, il posait le pain sur la table, il coupait le pain dans tous les sens, il coupait les rondelles de saucisson dans tous les sens et puis tout d'un coup, les fleurs valsaient et ma poésie était un peu oubliée.
Mais et ton père, en fait, il était vélomane. Je crois qu'il vendait des vélos à l'ombre De quelle montagne?
Alors,
Ventoux?
Il y a le Ventoux, il y a Saint-Rémy-de-Provence. Mon père a travaillé pour beaucoup de gens dans le milieu du cycle. Mon père dirigeait 51 ans sa boutique. On est né dans cette boutique. Il fabriquait et il distribuait toutes les marques possibles, cycle et sport. Et en même temps, je peux dire que c'est lui qui nous a transmis à chacun chacune l'art du travail, le goût de l'effort et l'art du travail.
D'aller vers l'excellence?
Moi, je répète chaque jour à mes clients, les jeunes, les moins jeunes, le travail, c'est quelque chose qui booste toutes les cellules du corps. Moi, à 62 ans passés, bientôt,
ça se voit pas, hein,
non, mais je les ai. Mais on a une dynamique de l'art du travail, à condition de la communiquer avec les gens qui viennent te voir. Et voilà. Là, moi, je m'adresse à tous les auditeurs de Judaïka, une radio pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je transmets toujours, en radio, en écriture, ou dans des interviews, le travail. Il faut qu'il s'échange avec l'autre. Et là, on construit un univers. Moi, j'ai appris de mon grand-père, tu construiras ton temple, Fred, pierre après pierre. Cette phrase, je l'ai là, et je l'entretiens avec beaucoup de, pas de facilité, mais le travail, chaque matin quand je me lève, que je traverse Strasbourg, cette lumière, cette couleur, quand j'arrive devant le fond du jardin, j'ai une énergie jusqu'au soir, 22h. C'est ça.
Tu t'arrêtes jamais, t'es jamais fatigué?
Grâce à Dieu, je m'arrête jamais. En même temps, je sais qu'il nous pousse, l'invisible nous pousse toujours à continuer. S'il y a des moments où on est rattrapé par des zones d'ombre, des zones de doute, et c'est la logique. C'est la logique d'un rosier dans un jardin. Il doute aussi quand il pousse, quand il va se dire « Là, j'ai la deuxième rose qui sort au mois de mai. Là, j'en ai trois qui sortent ici. » Les humains, on est pareil. On est ramifiés entièrement entre la terre, le ciel, ce qui nous entoure, et l'air qu'on respire. Et cette trame-là, elle habille et elle habite entièrement les humains. Donc, moi, je dis, s'arrêter, c'est un peu choc, hein. C'est mettre un pied dans la tombe, absolument. Et ça, faut éviter. Toujours faire quelque chose.
D'aller toujours vers le merveilleux, être tous les jours émerveillé par quelque chose. Et tu l'es. Tu es émerveillé partout. Là, devant les micros, là, tu nous parles. Oui. Mais j'ai la chair de poule quand je t'entends parler.
Non, mais je suis,
c'est incroyable
nous,
comme tu es.
On vit vraiment avec ça. On est habité par ça. Je suis parfois moins émerveillé quand j'ai du retard pour payer l'URSSAF, quand l'huissier débarque dans le couloir. Parce que là, tout d'un coup, j'ai affaire à ce que j'appelle les grands dépressifs de service.
Ouais.
C'est très compliqué.
Ouais, ça, je comprends.
C'est très difficile.
Écoute, on va écouter un de tes grands amis, une musique que tu adores, ton ami Michel Jonas, on en parlera plus tard.
C'est mon parrain. Oui.
C'est ton parrain en plus. Vas-y voir Thomas, mets-nous voir nos deux noms. Quelque chose d'intéressant. Un grand monsieur Jonas. Hein. Franchement, tu es très ami avec lui.
Oui, c'est mon parrain. Je l'ai connu très, très... J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Je l'ai connu à 17 ans. Il est devenu un peu mon deuxième père. Je passe beaucoup de temps avec lui, beaucoup de temps dans sa maison, porte de Paris. C'est quelqu'un qui me rend visite très souvent, avec qui on échange. Et quand on est ensemble, même à Paris, sous le grand marronnier où il vit, on discute un peu de ce qu'on vient d'entendre là, les deux noms.
Évoque quoi pour toi, les deux noms?
Les deux noms, ça évoque...
C'est un miroir, c'est comme quand tu vois ton visage dans ce qui est derrière le miroir.
Mais là, cette maison-là, ce son, c'est la Voie lactée. C'est toi ou des gens... où vous êtes deux, vous êtes dans la Voie lactée, vous êtes posé dans un champ, dans une prairie, vous êtes porté par ça, la mythique et la mystique ambiance de l'univers. Et les deux noms, c'est ça, c'est on écrit nous deux noms sur un rocher, ou sur une pierre, ou sur un arbre, ou sur une pierre qu'on va lancer en ricochet, ou on va la lancer vers l'univers, et elle va par descendre, va monter vers l'espace. Nos deux noms, c'est la période unie vers l'uni. Les gens ensemble. C'est les années Michel Jonas, avant la fabuleuse histoire, le Mr. Swing. Michel, c'est un grand humaniste. Là, je viens d'aller le voir avec Patrick Timsit, qui m'a présenté, à Paris, dans ce très beau théâtre. On est porté par des gens qui ont des ramifications. Hein. Et là, Michel, il est toujours dans ça. C'est de là que vient cette passion de dire que finalement, tout est possible dans cette vie. Croire que aussi... nos vies matérielles sont, pardonnez-moi,
je t'en prie,
sont totalement habillées par deux forces différentes. Il y a, comme disent les Tibétains, l'âme de fer que nous, dans laquelle nous sommes confrontés tous les jours, nous tous et nous toutes. Et il y a l'âme de paix, la lumière, l'étoile, tout ce qui fait notre corporalité, nos cellules, comme les arbres, comme la terre, tout ce qu'on touche et tout ce que l'on peut dire aux autres. À quel point une parole, une émotion peut-être porteuse, hein, à la fois, malheureusement, dans ce qui est noir, et heureusement, dans ce qui est luminescent. Hein. On peut donner plein d'exemples autour de ça. Et Michel et moi, c'est nos grands sujets de conversation.
Vous parlez souvent de ça, donc tu penses que toi, après, l'âme ne peut jamais disparaître. L'âme va s'envoler quelque part et reviendre ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus, Michel Jonas, quand vous parlez ensemble?
Alors, c'est marrant parce que quand on a préparé cette émission ensemble, hier soir, tu m'as appelé tard à la maison et tu m'as choqué sur une phrase de beaucoup de tes amis médecins, bien terre à terre. Moi, j'en ai aussi des médecins bien terre à terre puisque j'ai un grand hypochondriaque et j'ai 5 médecins autour de moi. Mais j'ai été choqué d'une chose parce que tu as dit une chose que, et c'est pas de ta faute d'ailleurs, tu as dit, moi, mes amis médecins m'ont dit, quand tu tombes dans la terre, tout est terminé, on n'en sort pas, il n'y a rien.
Rien ne s'échappe de la terre, voilà ce qu'ils disent.
Mais c'est une grande bêtise.
Je suis d'accord avec toi.
C'est nul.
Ouais,
et moi, je leur dis, parce qu'ils ont plus de connaissances que moi, mais comment dire une bêtise pareille? D'abord, pourquoi? Parce que même imaginons que tu restes enfermé dans la terre, mais rien n'est immobile dans la terre.
Bien sûr.
Qui te dit que tu ne vas pas devenir la marguerite? Ou la tulipe.
Ou l'oiseau qui mange
ou
un
l'oiseau
verre.
Qui
s'en va. Ouais.
Les ramifications sont éternelles. Voilà.
Écoute, j'ai un beau livre devant toi, Le lien de l'âme. C'est un livret que tu as écrit, plein de poésie. Justement, pour conclure, est-ce que tu pourrais lire ce joli petit poème que écrit Les Cerises?
Oui, ma grand-mère nous a élevés au pied du Mont-Aiguille. Et puis, j'aime bien partager ça avec vous toutes et vous tous. Vous prenez un tout petit train qui vous transporte au-delà de Grenoble, à 45 km de Grenoble, et à un moment donné, dans les brumes du matin, quand le soleil se lève, on est au mois de juillet, vous traversez des viaducs totalement irréels et qui sont bien réels. Au contrebas, vous voyez les torrents, il y a un seul train par jour, et vous vous arrêtez là, au pied du Mont Aiguille, dans le village de Chichiliane. C'est là que mon père est né, c'est là que mes grands-parents m'ont tout appris, le miel, la lumière, les arbres. Et un jour, ma grand-mère, dans la cuisine, j'étais très petit, elle me dit une phrase que je vous transforme dans un texte qui s'appelle « Les cerises ». Le voici. Longtemps après la disparition de mon grand-père, seul dans la maison tout près du Mont-Aiguille, ma grand-mère nous affirmait l'entendre venir lui chanter à l'oreille « Le temps des cerises ». Beaucoup en riaient. Moi, jamais. Parce que je crois vraiment que c'était vrai.
C'est beau ce que tu dis, c'est magnifique ce petit texte. Je l'ai aussi parcouru hier soir. Et souvent, ton petit recueil, je le reprends à des moments clés de ma vie pour les relire et tout. C'est magnifique. Et ce que tu dis à l'instant de Jonas, dont vous parlez, c'est exactement ça.
C'est tout
ça. Les cerises de ta grand-mère.
Et moi, je dis souvent aux gens, ne souriez jamais devant quelqu'un qui vous dit, c'est étrange, hein, c'est probablement la fatigue, hein, mais j'ai entendu ton père me dire ça, ou j'ai vu ça, ou j'ai senti d'une façon frappante le parfum de mamie, là, juste au coin du jardin. Il ne faut jamais prendre les gens pour cet acte-là, cette prononciation pour de la folie. Il y a toujours, je le dis encore une fois aujourd'hui, une grande partie des choses que l'être humain ne connaît absolument pas. Même quand on est un grand physicien, même quand on est dans la grande médecine, on ne sait pas.
Oui, c'est vrai.
Jusqu'à la fraction de seconde où on passe de l'autre côté. Mais ça, je termine là-dessus, il faut le demander. C'est une prière, je l'ai dit tout à l'heure en rentrant dans ce studio. La prière a un pouvoir considérable.
Je vous avais dit à l'instant que mon invité, il est rempli de lumière on a énormément de lumière dans ce studio. Alors revenons un petit peu à nos madeleines, à tes madeleines.
Ouais.
Quand tu glisses une madeleine dans ton thé, tu réveilles un souvenir lié à ton enfance, Fred. C'est un peu les madeleines de Bourg-Proust.
Oui, mais moi j'ai la chance d'avoir rencontré Laurent à Cancale chez Olivier Rollinger, qui est devenu mon ami. Mais c'est fabuleux parce que Laurent, il a les mêmes yeux que moi, la même lumière peut-être dans son interprétation culinaire. Parce que quand il dit, voilà, quand je regarde tous les décors que tu réalises dans le fond du jardin, j'ai inventé la madeleine de l'histoire de telle personne, tel personnage, telle émotion. J'ai travaillé une madeleine sur la vallée du Mont-Aiguille ou sur l'émotion de Charles Dickens. Et donc, on s'échange en permanence ces thématiques. Laurent et moi, je vais vous le dire à tous. Le jour où on décidera de fermer le rideau, on ne veut aucun héritier à cet univers qui nous appartient. Il y a deux choses, et c'est bien en radio de le dire, un décorateur, concepteur, inventeur de lieux, émetteur en scène, qui est mon travail, et il y a
conteur aussi, parce que tu racontes.
Ah ben je raconte.
Quand on rentre dans ton magasin, je disais justement, c'était le magasin de Mary Poppins, tu mets tout en scène.
Mais ça plaît pas à tout le monde, hein. Moi je suis violemment attaqué souvent sur des réseaux, on s'en fout.
Il y a de la jalousie partout, j'ai connu ça aussi à un moment dans ma carrière, on a tous connu ça.
Voilà.
Mais dès qu'on parle de toi, qu'on l'en parle en bien ou en mal, mais on parle de toi. Mais toi, je sais, quand je rentre dans ton magasin, d'abord il y a toutes ces senteurs, parles du thé, de chaque petite brindille de grains que tu mets dans le thé. C'est extraordinaire, c'est un voyage quand on vient
mais
chez toi.
C'est pour ça que Laurent et moi, Laurent a une partition, je le dis avec, je peux me permettre de le dire parce que c'est pas moi qui invente les madeleines, Laurent est l'inventeur, le créateur total de ces madeleines. Et que tous les deux, je ne sais pas si ça se dit, notre binôme, il est extrêmement fort construit autour de ça.
Et ça fait 27 ans que vous voyagez ensemble.
Tout à fait.
C'est extraordinaire.
Oui, on travaille beaucoup. Tout à l'heure, dans le studio, je vous l'ai dit, et je te l'ai dit à toi aussi, André, c'est que notre travail, c'est 88 heures de présence par semaine.
C'est incroyable.
On a un jour de congé, c'est lundi, et aujourd'hui, je suis avec toi pour enregistrer avec bonheur cette émission.
Ouais, moi, je suis très heureux d'être là, parce que c'est vrai que c'est... Et là, tu dis des choses qui me touchent et qui touchent les gens, je suis certain. Alors, tes madeleines ne voyagent pas qu'à Strasbourg, parce qu'ils sont allés chez Obama, ils sont là à la Maison Blanche, ils sont allés à Londres, pour le mariage de Harry quand il s'est marié. Raconte-nous tout ça, là.
C'est beaucoup de choses. Moi, en tout cas, le souvenir que j'ai, c'est avoir rencontré un diplomate qui m'explique que Barack Obama est fasciné par le transsibérien. Cette rencontre se fait dans un couloir. C'est très intéressant. Je commence à prendre dictaphone et noter les mots-clés. Et on commence à travailler, Laurent et moi, cette thématique d'une madeleine qu'on a fait suivre pour les consulats États-Unis et pour M. Obama, pour l'investiture. C'est une madeleine qui retrace tout le train qui le fascine. On va faire fondre dans une pâte à madeleine une feuille de cigare, une vraie feuille de cigare Havane, qui va se mélanger au lait. Et ensuite, petit à petit, le rôle de la feuille de cigare va prendre le parfum du Havane biscuité, noiseté et caramélisé. Et cette matière, dans la pâte à madeleine, quand elle va cuire, on va la travailler aux trois préférés. Chocolat de M. Obama, chocolat blond, chocolat blanc et chocolat noir équateur. En fait, on joue un jeu d'une cohabitation entre différentes thématiques de couleurs. La madeleine est parfumée avec l'étoile du Transsibérien.
Wow.
Et on a envoyé ça un jour du mois de décembre pour faire partir tout ça vers la Maison Blanche.
Et comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Alors moi, je n'ai pas eu de retour direct avec M. Obama. J'ai eu des retours avec les gens qui ont transmis, parce que moi, je passe par des réseaux.
Oui, bien sûr.
Très différents avec les Clinton, puisque là, les Clinton connaissaient nos produits. Et là, j'ai eu des remerciements très chaleureux qui sont affichés au fond du jardin. Et après, on travaille pour beaucoup d'institutions. On a imaginé un jour, au cours de ce que m'avait raconté le prince Harry. Prince Harry, autour d'un feu de cheminée, raconte une histoire étonnante avec trois mots-clés. je ne me séparerai jamais de l'orange de Séville à éplucher, de mon verre de scotch devant cette cheminée et du carrot cake de la recette familiale. On en fait un grand mélange de thé qui est le Harry New Year, dans lequel on va sentir justement la ventilation du scotch dans le thé vert, l'orange de Séville et la touche de carrot cake. En fait, les rencontres qu'on fait donnent naissance à des cadres, des décors, des vitrines et évidemment des madeleines uniques. Chaque madeleine, c'est un quart d'heure de travail par pièce.
Ouais, c'est énorme. Et tu en as combien tous les jours? Tu en as 400.
On fait sortir par jour, il y a 4 collections. Alors, on présente 335 pièces par jour, ce qui est considérable.
J'ai lu un petit peu ce que tu marques sur Internet, ainsi de suite, sur ton site, ouais, que chaque madeleine est maquillée. Il y a du maquillage. C'est extraordinaire de dire ça.
Oui, alors là aussi, on a affaire à différentes situations. On a des gens qui vont rentrer et qui sont les grands provocateurs de l'éternel en demandant « Mais où est passée la madeleine végane ?» On ne travaille pas. Il va y avoir ceux qui s'interrogent sur la couleur d'une madeleine réalisée sur l'inspiration de Thierry Mugler, le bleu qui est ici,
ah oui, ouais,
le bleu de Judaïka. Thierry Mugler, un immeuble magnifique aux portes de Paris. On pousse la porte, tout est moquetté dans ce bleu-là,
dans ce bleu,
avec des étoiles partout.
Wow.
Et dans le train qui nous ramène à Strasbourg, on commence à imaginer le cuirassao bleu sans alcool et l'orchidée noire et la praline qui a obsédé Thierry Mugler dans ses parfums toute sa vie. Et on crée cette madeleine. Alors forcément, c'est deux mondes. Il y a celui qui va vouloir la pureté absolue, celui qui va rentrer avec son tapis de yoga et son machin et qui dit « Mais moi, je veux tout d'ultra naturel » et qui ne comprendra pas la vraie poésie que je dégage là-dessus. Non, mais c'est vrai.
Tu es un vrai conteur, j'adore.
Bon,
tu racontes plein de choses intéressantes.
Il y a plein de choses qui sont très importantes. Il faut se méfier des profils. Moi, ouais, j'adore les profils parce qu'il y a des profils qui vont rentrer, qui vont mettre un pied dans le fond du jardin et au moindre regard, moi, je vous
le
dis.
Tu sais qui c'est.
Moi, je vous le dis à toutes et à tous avec un grand confort. J'ai peur de rien, même des critiques sur Internet. Je m'en fiche royalement. Mais les gens sont fascinants. On a celui qui doute qui rentre.
Ouais.
On le voit tout de suite dans une fraction de seconde. Celui qui ne va pas croire quand il va mordre dans un sujet, celui qui ne va pas croire que tu passes 4 jours et 2 nuits pour changer un décor, 7 décors dans l'année, 7 saisons.
C'est énorme.
Et tu as les poètes, les rêveurs, et je les vois tous rentrer, les adolescents, les grands, les grands-parents, les familles, et nous on est portés par eux.
Tu devrais être ambassadeur, tu perçois tout le monde.
Moi, je voudrais être le futur maire de Strasbourg.
Ah ben ça, c'est pas compliqué, je pense.
Si, je crois que c'est très compliqué. Parce que je voudrais être aussi le maire d'Avignon pour relever des couleurs de chez moi, de mon pays. Mais tu sais, et vous savez tous, quand vous aimez profondément quelque chose, quand vous aimez une ville profondément, etc., y a des choses qui ne sont pas possibles à faire. Quand vous êtes dans la sincérité à l'état pur, si vous voulez devenir un jour l'ambassadeur d'un sujet comme une superbe ville, je crois que personnellement, on s'y brûlerait les ailes et ça serait très difficile.
On va écouter une petite musiquette que tu aimes, du piano de Philippe Glass. On va écouter un petit peu ça ensemble.
Oui, hein, beaucoup Philippe Glass. Ouais.
On n'a pas trop le temps pour écouter toute cette belle musique, mais cette musique, on l'entend chez toi, dans ton magasin, dans ta boutique.
Oui, puis c'est surtout que Philippe Glass, c'est joliment très long, c'est des partitions très longues. C'est un obsessionnel, moi j'adore les obsessionnels. Philippe Glass est un obsessionnel de la ligne, de la courbe, du temps. Tout à l'heure, on en a parlé. Moi, j'emploie un mot qui n'est pas bien placé, mais on est dans la musicologie quantique. C'est ça, Philippe Glass, c'est éternellement reconduit dans le temps. Philippe Glass, dans The Worst, dans ce film, il positionne comme des scènes au ralenti. Le geste même de Mary Streep qui ouvre le rideau en contre-jour avec la lumière qui passe à travers, c'est juste royal. Il faut peu de choses pour faire voyager les gens. Bien, Philippe Glass derrière ça, c'est juste grandiose. Ou écouter du Philippe Glass dans une église, par exemple, quand il y a un concert qui passe sur ce style de musique dite répétitive. C'est magnifique.
Est-ce que les gens sont sensibles quand ils viennent le trait chez toi, d'écouter ce genre de musique, est-ce que ça parle davantage ou ils sont sensibles à des touches de piano, par exemple, est-ce qu'ils sont...
Ouais, ma musique est calculée du matin au soir. Elle est programmée, c'est que des musiques de films, en règle générale, et j'autorise la pénétration de Maria Callas dans une voix réverbérée vers 17h30, quand le soir tombe, parce que c'est là qu'il faut la positionner. C'est un peu comme si un rideau de théâtre s'ouvrait sur une envolée de velours rouge, pourpre, années 60, où elle est là. Elle arrive, il y a des pétales de rose un peu velours abandonnés au sol, on sent les coussins, ça. Et là, il faut qu'il y ait Callas, et il faut qu'il y ait glace à l'arrière. C'est ça, la vie.
Parle-moi de ce beau film que tu as eu un soir chez Delahousse à 20h30. Ils t'ont fait un conte de fées. Ils t'ont raconté une histoire magnifique. Je l'ai vu, ce film.
Oui.
30 minutes. De... Ouais. C'était extraordinaire.
Oui, on a fait un 20h qui va se reconduire bientôt, je pense, dans cette année qui arrive. Laurent Delahousse rentre en plein Covid dans l'histoire de la maison et il dit « Il faut que vous soyez le Joker de France 2 à 20h. J'accepte le tournage d'une équipe de rêve. Une semaine de tournage, reportage. 24 minutes à 20h. Alors, je ne suis pas un homme de chiffres. Mon expert comptable me rappelle suffisamment à l'ordre là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'on a fait 8 millions de téléspectateurs.
C'est énorme.
Ce qui est beaucoup. Et on a vu d'abord un talent de l'équipe de France 2 où on nous voit manœuvrer la nuit dans les vitrines, tel que c'est en réel. Il faut 6 heures pour faire une vitrine. Je vous l'ai dit, il faut 20 minutes pour faire une pâte à madeleine, pour travailler un sujet. Et on voit... toute l'évolution du lieu sur France 2, on nous voit crapahuter dans la forêt, dans un soleil levant, comment on s'inspire des parfums, des odeurs, à la fois pour les décors et à la fois pour réaliser le culinaire. Mais le public qui s'installe, je dis bien, quasi religieusement, à 14h30 pour le goûter de Sherlock Holmes, les gens ont 2 heures à passer ensemble avec nous, un cadre feutré. Une émotion époque victorienne. C'est notre vie. C'est comme les gens qui vont découvrir bientôt notre maison dans le prochain France 2, là où on vit, vers Lingolsheim.
Parce qu'il y a un projet pour France 2. Ouais, tu vas repartir à la télé vers la fin de l'année 2025. Là.
Oui, alors ils vont venir nous voir pour regarder le montage du grand décor d'automne. Je crée un décor qui comporte 1200 branchages de feuillage d'automne en feu et en soie, avec des parfums de pommes, de cidre boisés dans l'atmosphère. Et ils vont filmer cette scène, ils vont filmer la maison où l'on vit, où on dessine beaucoup de choses, une grande maison anglaise, donc aux portes de Strasbourg. Et on va nous voir à Londres courir dans les rues aller chercher...
Il y a un tournage à Londres est prévu également.
Avec France 2.
Quelle production, c'est énorme.
Voilà, France 2 nous suit pour... nous ont demandé de pouvoir venir avec nous pour s'inspirer d'un personnage atypique dans un musée atypique, on garde un peu secret pour l'instant, un musée qui est très peu visité, qui se visite à la bougie. Et c'est là qu'on fera ce reportage avec toute l'équipe de Laurent Delahousse.
C'est incroyable, tous les projets que tu as, tout ce que tu vas encore faire. Alors aussi, il y a quelques jours, tu as eu une visite d'un de tes amis d'Indochine qui a passé un peu de temps chez toi. Tu lui as fait un petit déjeuner.
Ça s'appelle la chance. Et de préserver un tout petit noyau de gens proches. Moi, j'ai très peu d'amis. Je considère d'ailleurs que je n'ai pas vraiment d'amis, malheureusement. J'en ai. Ça commence à venir, les vrais. Parce qu'il faut savoir s'en occuper avec autant d'amour que sa vie intime. Et Nicolas Sirkis, Nicolas est un ami, il est venu se poser avec son garde du corps, il a fait un petit déjeuner rideau fermé, mais la boutique était ouverte et il y avait une file d'attente à l'extérieur de fans absolus. Ce qui est beau, c'est qu'il pénètre l'histoire d'Au fond du jardin, s'y poser, se raconter des confidences très en profondeur. Et c'est quelques heures après, tu arrives dans cette salle où, hier soir, il y avait 10 000 personnes.
Tu parles du concert, il était là pendant 4 jours à Strasbourg. Ouais,
incroyable.
C'était énorme.
C'est incroyable.
Énorme.
Alors voilà, on en parlait tout à l'heure ensemble. L'énergie, le goût du travail, la détermination, l'énergie qui doit habiter chaque individu. Même dans les moments dramatiques, on en traverse tous, on perd des gens, etc. La force ne doit jamais nous quitter.
C'est vraiment beau, c'est presque le mot de la fin en tout cas. Merci, on a presque passé 29 minutes ensemble.
J'étais ravi, mais là...
Mais tu reviendras avec grand plaisir, je voulais encore te poser plein de questions. J'avais préparé plein de choses, mais on te retrouvera cet automne quand tu auras tourné ton magazine avec Delahousse et tu viendras tout nous expliquer, nous raconter. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à chez nous. J'ai mis longtemps, je t'ai embêté longtemps pour t'appeler.
Non, mais c'est moi qui t'ai fait attendre, malheureusement.
Mais tu m'as fait attendre, mais quel bonheur de te trouver là, derrière les micros. Merci beaucoup. À très bientôt, porte-toi bien.
Et je vous embrasse tous.
Moi aussi.
voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes.